Nous sommes le mercredi 6 septembre 2023. Ils sont 11 heures passées légèrement de quelques secondes. Et vous toutes et vous tous qui êtes en place ici à Lomé, au Togo, un peu partout en Afrique, dans le monde entier, vous qui nous écoutez, nous suivez ou nous recevez par le biais de la nouvelle génération Canal FM à Lomé ici, ou sur les ondes de Radio Lumière en Ero, Radio La Paix, la voix des plateaux à Takpamé, Radio Centrale FM à Sokodé, Radio Sama FM en Pays Nabda, à Baga ou à Niamtougou, encore Radio Daoul en Pays Ncham, entendez par là Bassar et Konkomba, ou encore au grand nord du Togo, Radio Courtoisie. Dans le monde entier, vous qui êtes en communion, en communication avec nous par le numérique, nous vous saluons et vous témoignons notre profonde gratitude pour votre fidélité au Club de la Presse, fidélité que vous nous faites sentir au jour le jour. Alors bonjour, shalom, assalam alaikum, pour dire que les formules restent toujours. Et nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pendant que nous rendons grâce et gloire à Dieu, le Tout-Puissant, Miséricordieux, et que nous témoignons notre profonde gratitude au corps de la santé et à toutes les personnes de bonne volonté. La santé, encore la santé, toujours la santé. Que sommes-nous? Que pouvons-nous faire si notre santé décline? Ceux qui ont fait l'expérience de quelques jours à la maison ou à l'hôpital, vous en savez quelque chose, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous mettons la santé en point d'honneur à l'édition de ce jour. Naturellement, c'est mercredi, nous allons parcourir quelques articles du journal Santé Éducation. Et puis, nous recevons aussi aujourd'hui des amis, avec ou sans guillemets, qui nous viennent de l'Institut National d'Assurance Maladie. Le débat porté sur cet institut ces trois derniers mois avec une certaine intensité, des fois même avec beaucoup d'émotion. Nous-mêmes, journalistes et beaucoup d'auditeurs, ont exprimé leur insatisfaction, pour ne pas dire leur petite colère, leurs attentes à l'endroit de l'INAM. Avec notre retour, nous sommes heureux d'accueillir dans ce studio deux invités qui nous viennent de l'INAM. Le premier, parce que il est du corps, du même corps que moi, il s'est parlé et il s'est fait parler. Lui, c'est Bédé Bodom. T'es bien? Bonjour.
Bonjour, Sass.
Toi, je te tutoie parce que nous sommes des frères, des confrères. Tu es responsable communication à l'INAM, n'est-ce pas?
Oui. Bonjour, Sass. Bonjour à tous les auditeurs, auditrices. Bonjour aux assurés, prescripteurs et à toute la population.
Merci. Alors, avec Bédé Bodom, que des gens connaissent ou d'autres aussi comme Valentin, il y a également Dr Amoussou Kouetete-Teko. Bonjour, docteur.
Oui, bonjour, Sass.
Vous êtes chef département contrôle médical et qualité des soins à l'INAM.
À l'INAM, tout à fait. Et je vous remercie de nous avoir accueillis ici ce
matin. Plaisir partagé.
C'est un plaisir, merci
beaucoup. Je dois rappeler que la dernière fois que vous et moi, nous étions assis avec d'autres confrères et amis dans une salle, c'était à Kpalimé, vous vous rappelez?
Oui, je me rappelle très bien. C'était avec le ministère, la direction des médicaments, pharmacie et laboratoire.
Merci beaucoup. Mmh. Vous nous aviez beaucoup entretenu sur l'INAM.
L'INAM, voilà.
Vous allez restituer au grand public une partie de la formation que vous nous aviez faite. Donc, c'était en novembre. Hein?
C'était en novembre, oui.
Novembre 2022 à Kpalimé. Merci. Ah, il vient de nous rejoindre, c'est Kokou Gameli. Bonjour.
Bonjour, ça c'est bonjour à tous ceux qui nous écoutent, aux auditeurs et auditrices de Canal FM.
Pour ne pas dire Gadiel Tognadji.
Absolument.
Qui est né mercredi, Kokou Gameli.
Oui.
N'est-ce pas?
Tout
la
à fait.
La foi du Togolais, notamment du pays élevé.
Oui, tout à fait.
Gameli Nanoussiano.
Gameli Nanoussiano.
Alors, les Kotokoli le diront dans leur langue, les Moba, les Loso, pour ne pas dire les Naouba, les Kabien naturellement, et bien d'autres. Eh bien, c'est une tradition n'avons pas oublié. Nous nous laissons toujours inspirer par un grand penseur. On va démarrer l'émission. Et aujourd'hui, le sage nous dit, écoutons tous bien, n'allez pas où va le chemin. Allez plutôt où il n'y en a pas encore. Et ouvrez la route. Encore une fois, n'allons pas où va déjà le chemin. Allons plutôt là où il n'y a pas encore de chemin et ouvrons la route. C'est cette route sur la santé que Santé Éducation ouvre chaque semaine depuis déjà combien d'années, Gadiel?
Chaque année, depuis 2017.
2017.
Voilà.
Ah, ça, ça va vite.
Hein. Oui, ça va vite.
Eh bien, commençons par cet article à la page 4 qui doit nous intéresser tous. Qui n'a pas uriné ce matin et qui ne va pas uriner aujourd'hui. Alors, uriner, c'est ce geste si naturel, si simple, mais qui peut se révéler douloureux, voire difficile, n'est-ce pas, Gadiel?
À vous parler
De l'article à la page 4.
Non, vous avez parlé de... Je crois que vous parlez de l'âge de santé éducation. Est-ce que vous voulez dire?
Non, 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 ça dit qu'on a introduit santé éducation. D'accord. Et puis, j'aimerais directement sur cet article à la page 4.
Ok.
Ce matin, tu as uriné?
Absolument.
Et ça s'est bien passé?
Ça s'est bien passé.
Mais il peut arriver que quelqu'un ici, avec nos studios ou ailleurs, ceux qui nous écoutent, ressentent des douleurs ou des difficultés à uriner, n'est-ce pas?
Oui. Vous savez, ça, c'est récurrent. Aujourd'hui, les troubles urinaires chez les hommes et chez les femmes aussi, mm-hmm. parce qu'on en parle peu, ça existe. Très souvent, nous parlons des problèmes au niveau de la prostate, ou bien au niveau des reins. Mais il y a d'autres problèmes, il y a d'autres facteurs qui peuvent causer des troubles urinaires chez l'homme comme chez la femme. Alors, cet article très fouillé, et quand vous le voyez, au moins 9 causes qui peuvent conduire à des troubles urinaires chez une personne. Et puis, voilà, des propositions, comme nous sommes avec nos réalités africaines, nos connaissances africaines en matière de santé, nous proposons là 6 solutions d'accompagnement à tout traitement médical dans ce domaine-là.
Voilà, des difficultés à uriner, certains en savent quelque chose, ils ne sont pas loin d'ici. Alors, pourquoi cela peut arriver et comment doit-on s'y prendre? Santé du... On nous recommande des remèdes naturels, mais vous ne manquez pas de rappeler que quand ces troubles surviennent, il faut aller consulter.
Absolument. Quand vous vous levez et puis bon, quand vous constatez qu'à un moment donné, ce n'est plus habituel, il y en a quand ils vont pour uriner, je veux dire, c'est des douleurs ou bien c'est une sorte de rétention ou bien ça sort trop vite ou bien c'est trop peu d'urine, mais c'est très abondant. Donc, tout ça constitue ce qu'on appelle des troubles urinaires. Et quand on remarque cela, c'est important. Le premier acte qu'il faut poser, c'est d'aller consulter. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs prises en charge au niveau médical pour les troubles au niveau urinaire.
Et maintenant, naturellement, il ne faut pas attendre que cela devienne aigu avant de consulter. Dès qu'on sent les premières difficultés, il faut courir.
C'est ça, c'est pourquoi Santé Éducation est là. Parce que nous crions. Hein, les premiers signes déjà doivent alerter, aller consulter pour ne pas rentrer dans les complications et dans l'irrécupérable. Donc, c'est très important détecter les signes, aller consulter et rapidement, la prise en charge est efficace. Et puis, ben voilà, on est sauvé, quoi.
Eh bien, qu'est-ce qui peut causer que uriner se révèle douloureux ou très difficile? Ça peut être dû à une cystite ou à la prostatite ou encore à l'urétrite, à la pyélonéphrite ou encore à certains médicaments qui peuvent causer rétention d'urine ou encore à un syndrome de la vessie douloureuse, beaucoup plus chez les femmes d'après ce que vous écrivez, ou encore à les troubles, à des troubles de la prostate, à des calculs rénaux, à des tumeurs. Mais encore une fois, quand ça survient, dès qu'on sent les premières difficultés, courir vers les spécialistes. Soit dit en passant, vous permettez que je salue quelqu'un que je peux prétendre qu'il est mon ami, c'est docteur Esodina Padja. Il sait pourquoi.
Ça, si vous permettez, le cas des médicaments. Quand on prescrit un médicament à un patient, il y a des effets secondaires. Et il faut que nous tous on ouvre les yeux sur ça. quand vous prenez les médicaments, que vous remarquez qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de votre organisme. Peut-être on ne voit pas bien, on n'entend pas bien, ou bien on ne dort pas bien, ou bien on n'urine pas bien. Il faut signaler cela au médecin. C'est absolument important. Il peut changer la prise en charge. C'est absolument important pour ne pas avoir des dégâts.
Que même si c'est un médecin qui a écrit, qui a prescrit l'ordonnance et qu'on l'a acheté à la pharmacie, il faut se donner la peine de lire la notice, n'est-ce pas?
Oui, les médecins, eux, ils sont là pour ça. Quand le traitement a des effets secondaires assez terribles, il est là, il peut rapidement changer le genre.
Passons rapidement à une autre maladie, pas moins chronique, c'est l'hypertension artérielle. Et vous écrivez que si l'hypertension artérielle doit obligatoirement faire l'objet d'une prise en charge médicale attentive, encore une fois,
oui,
allez voir un médecin pour ces maladies chroniques, mais il y a également certaines alternatives non médicamenteuses qui peuvent s'avérer bien utiles pour réduire la pression artérielle, et vous les recommandez ici.
Oui, quand vous avez une tension élevée et vous êtes sous médicament, le médecin vous suit, vous savez, votre alimentation peut aggraver le cas. On l'a dit ici, il faut avoir une alimentation appropriée à votre maladie, d'où ce légume-là, hein, on peut l'appeler le céleri. Un légume très important qui accompagne un certain nombre de traitements, dont l'hypertension, le diabète, les problèmes cardiaques. Donc, c'est important, une recette dans cet article. Alors, on dit bien en accompagnement à tout traitement médicamenteux.
Merci. C'est le céleri que Santé Éducation présente comme le super légume contre l'hypertension artérielle. Mais encore une fois, allez voir le spécialiste, le médecin qui est formé et qui a prêté serment pour cela. Nous continuons, terminons avec cette interview que vous a accordée Dr Jean-Claude Bakpatina. Il est médecin généraliste. Il nous parle de la sinusite.
Oui, la sinusite. Vous savez, quand vous êtes là et puis c'est récurrent, un mal de tête, écoulement au niveau nasal, ou bien le nez bouché, un certain nombre de gènes, s'il vous plaît. Il faut aller consulter. Il ne faut pas juguler à la maison. Il se pourrait que ce soit la sinusite. Et le spécialiste revenu sur cette maladie de fond en comble avec plusieurs questions qu'on peut se poser à la maison sur cette maladie. C'est un article que nous recommandons à tout le monde, la sinusite, que les gens ont, mais ils ne savent pas que c'est ça. Et puis, ils s'amusent à la maison pour faire un certain nombre de choses. Et des fois, ça rentre dans des complications terrible. L'article, on le recommande à tout le monde.
Merci à toi, Kokou Gameli. Peut-être que sur le coup de 12 heures, les auditeurs, s'ils le souhaitent, ils pourraient y revenir en composant nos deux numéros, le 22-21-33-74 ou le 91-36-63-75. Et quand ils appelleront, ils passeront par les techniciens Victor Bekoku Michel Toubega qui réalisent cette émission et la mettent en ligne, en onde plutôt, pendant que Jérôme Dakoucha permet aux internautes ici au Togo, en Afrique ou d'ailleurs, qui nous suivent. Sylvestre Kokou Beni, bonjour.
Oui, bonjour, ça c'est bonjour à toutes et à tous.
Je présume que ce matin, tu as uriné sans difficulté.
Sans souci.
Sans souci, okay. Qu'il en soit toujours ainsi.
Amen.
Tu n'as pas des soucis de l'hypertension artérielle?
Non, pas pour le moment.
Pas de sinusite non plus?
Non.
Eh bien, préserve cet acquis que Dieu t'a offert. Et maintenant, INAM, vous êtes là, nos amis de l'INAM?
Oui, nous sommes
docteur Amouzou Kouetete, notre ami Valentin. Eh bien, vous nous avez sans doute suivi ces 3-4 derniers mois. L'INAM s'est fait l'inviter, bien malgré lui, dans tous les médias, sur les réseaux, notamment quand certains de vos partenaires, notamment les pharmacies et quelques officines de santé, avaient dit suspendre leurs prestations parce que INAM ne payait pas. Valentin, je présume que cette affaire est bien réglée depuis.
Oui, il faut préciser que cette affaire est rentrée dans l'ordre et les premiers responsables ont pris les mesures diligentes pour que la reprise des services aux assurés soit vraiment effective. Et à l'heure où je vous parle, et bien longtemps, de quelques semaines, c'est effectif et les assurés sont dans les officines et ils ont droit à leurs médicaments à travers l'assurance maladie.
Qu'il en soit toujours ainsi. Et comme vous savez, quand on ne change pas, une équipe gagne.
qui gagne, continue toujours à gagner.
Et nous y veillons.
Qu'il y ait de très peu ou de moins en moins de grincement du dent de la part de vos partenaires.
Sinon, la direction générale a pris des engagements pour que cela ne se répète pas. Et puis, tout est rentré dans l'ordre. À l'heure où je vous parle, ben, depuis longtemps, toujours, j'allais dire, quelques semaines, c'est rentré dans l'ordre.
Eh bien, que les engagements soient effectivement respectés.
C'est toujours respecté.
Alors, dites-nous, le Togo n'est pas le premier, ni le dernier, pas le seul. Dans la plupart des pays, les gouvernements mettent en place l'assurance maladie. Alors, dites-nous, Valentin,
oui.
Quels sont les avantages de l'assurance maladie pour les populations qui en bénéficient?
Oui, nous allons partir en français facile, comme tu aimes bien, souvent. Mm-hmm. Les avantages de l'assurance maladie, c'est que dans nos communautés, il y a la solidarité. Lorsqu'il y a une assurance maladie, il y a la solidarité. Elle était là, mais elle est encore plus agissante. C'est-à-dire que les moins âgés sont solidaires à travers leur cotisation avec les plus âgés. Les nantis sont solidaires avec leur cotisation avec les moins nantis. Vous voyez, il y a une solidarité intergénérationnelle. Il y a la solidarité entre les nantis et les moins nantis. Et lorsqu'une assurance maladie est mise en place dans un pays, parce que l'État est le garant de le bien-être et de la santé de la population, ainsi il met en place des mécanismes tels que l'assurance maladie pour permettre à la population de se soigner sans s'appauvrir. Un des avantages, se faire soigner sans s'appauvrir. Donc lorsque je suis malade, j'ai de l'assurance ou je suis assuré, je vais à l'hôpital, je compte sur l'assurance, quel que soit le montant ou les frais de santé, je pourrais avec mes 2 ou 3 000 francs parce que l'assurance prend une grande partie et moi je paierai moins. Et là je ne vais pas retarder les soins, c'est-à-dire que Gadiel disait tout à l'heure, dès les premiers signes, nous devons aller à l'hôpital. Mais est-ce que nous avons de l'argent pour aller à l'hôpital? Parfois nous n'allons pas parce qu'on craint, on a peur. Et si on m'envoyait une ordonnance, qu'est-ce que je vais faire? Alors, fort de l'assurance, je peux gaillardement aller à l'hôpital parce que l'assurance me couvre et je vais payer moins. Et je vais me faire soigner sans me ruiner ou m'appauvrir.
Merci. Donc, voilà, l'assurance maladie, c'est un des principes de solidarité, de mutualisation.
Oui.
Hein, ce qui fait que les plus jeunes, hein, qui sont à principe moins malades, hein, assistent par leur contribution les plus âgés.
Exposés, oui.
De même que ceux qui ont plus de moyens, oui, permettent également aux moins nantis de se soigner. Et quand on a l'assurance maladie...
Et j'allais ajouter qu'aujourd'hui, nous qui sommes assis ici, nous ne sommes pas malades, mais nous, par nos cotisations, nous permettons à ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les centres de santé, de se faire prendre en charge. On ne sait jamais, on ne sait quand on va tomber malade et lorsqu'on tombera malade, combien ça va coûter. Donc, la solidarité agissante est aussi et surtout se soigner sans s'appauvrir.
Et surtout, quand on a l'assurance maladie, on peut se rendre à l'hôpital ou à la pharmacie, parce que l'assurance couvre tout ou une grande partie des frais, n'est-ce pas? Eh bien, continuons donc avec cette question. D'abord, est-ce que l'assurance maladie est obligatoire dans le public?
Oui, la loi qui instaure le régime d'assurance maladie publique que l'INAM gère aujourd'hui, cette loi a rendu les cotisations obligatoires aux assujettis, j'allais dire, aux fonctionnaires. Ça vient obligatoire.
Fonctionnaires physiques, civils,
militaires, retraités, en activité. Mm-hmm. Voilà. Pourquoi obligatoire? Vous voyez, si d'abord l'obligation de l'assurance maladie de Bia, c'est un signe de solidarité. Si nous sommes ensemble et que nous sommes obligés de cotiser, ça veut dire que nous sommes solidaires ou nous sommes co-solidaires en face de la maladie. Maintenant, lorsqu'on quitte là, si ce n'était pas obligatoire, alors, ceux qui seront dans un groupe, nous tous ici assis, vous verrez que seuls les malades vont cotiser. Et si nous tous, nous sommes malades et c'est nous qui cotisons, ça ne va pas servir, ça ne peut pas servir à nous soigner. Parce que nous tous, nous sommes malades et on a besoin d'argent pour se faire soigner. Mais quand c'est obligatoire, là, ceux qui ne sont pas malades, ils sont dedans et l'argent de ceux qui ne sont pas malades va servir à soigner ceux qui ne sont pas malades. Alors, le caractère obligatoire aussi est très important parce que sinon, je viendrai cotiser lorsque je suis malade. Et après que je sois soigné, je quitte. Je ne vais plus cotiser. Alors, qu'entre-temps, l'argent de quelqu'un avait servi à me faire soigner. Et quand je pars, alors, ceux qui sont restés, qui sont malades, qui va cotiser pour eux? Vous verrez que si ce n'est pas obligatoire, je parle bien d'une assurance maladie publique, c'est-à-dire assurance maladie sociale, alors c'est important que ça soit obligatoire pour que nous tous, nous ayons des moyens pour nous faire soigner. Sinon, seuls les malades vont cotiser.
Merci. Ceux qui sont dans des tontines et sont chez nous ici en savent quelque chose. Quand tu prends l'engagement, cet engagement s'impose à toi. Donc, pour dire que la loi rend l'assurance maladie publique obligatoire pour les gens du public et progressivement, l'INAM s'étend également à d'autres secteurs d'activité. Nous y reviendrons parce que le sujet est très vaste. On ne peut pas tout embrasser aujourd'hui. Revenons maintenant à ce qui fait quiproquo, ce qui a fait quiproquo ces derniers temps. Docteur Amoussou Koutété, rebonjour.
Rebonjour.
Eh bien, très souvent, on entend parler de liste de médicaments. Alors, pourquoi une liste des médicaments alors que les maladies sont nos limites? Alors, pourquoi il y a une liste qui limite certains médicaments que l'INAM a su, docteur?
La question est très bien posée parce que c'est souvent demandé. Pourquoi une liste de médicaments remboursables par l'INAM quand il y a pas mal de médicaments en pharmacie, de libre accès, et qu'on doit tout simplement prescrire et aller chercher? Et je vais vous dire tout de suite que la liste des médicaments, c'est un outil de maîtrise du risque financier pour qu'il n'y ait pas abus et autres. Et c'est également pour assurer la qualité des soins. Parce que les médicaments retenus dans une pareille liste sont des médicaments de qualité, vérifiés, que l'État met dans cette liste. Et cette liste est faite par l'État.
Ce n'est pas vous à l'INAM, ce n'est pas vous qui avez établi cette liste-là comme ça.
C'est le ministère de la Santé qui, par un groupe, un comité d'experts, établit la liste et qui donne la liste à utiliser et à l'INAM et aux prestataires comme aux pharmaciens pour pouvoir prendre en charge les assurés. Et cette liste, pourquoi je dis ça, c'est une liste d'objectifs. Le premier objectif, c'est, je viens de le dire, c'est assurer la qualité des soins. L'État vérifie certaines choses. Est-ce que la liste a l'autorisation de mise sur le marché? Est-ce que c'est une liste? Est-ce que les médicaments de cette liste appartiennent à ce qu'on appelle la liste nationale des médicaments essentiels, sous générique, sous DCI? Donc les médicaments qui couvrent, qui sont utilitaires au pays, qui couvrent les affections en général qu'on trouve dans le pays. Donc, ça, c'est côté qualité. À part ça, il y a côté efficience qui est recherché. C'est-à-dire, une pareille liste doit permettre à ce que les prescripteurs prescrivent et que le malade prenne le médicament le moins disant en coût parmi ses identiques, son groupe de médicaments identiques. Donc, lui permettre de faire efficient et pour que le patient, une fois arrivé à la pharmacie, ne paye pas trop. Donc, son reste à charge réduit. Et pour toujours dans le même sens, pour que l'assurance maladie puisse être pérennisée, soit équilibrée. Parce que dites-vous, je vais vous donner tout de suite un exemple, je ne vais même pas aller loin. Il y a un médicament anti-hypertenseur, je ne dirai pas le nom, les noms commerciaux ici, qui s'appelle en DCI, dénomination commune internationale, donc nos noms savants, amlodipine, 10 mg comprimé. La boîte de 30, une boîte de 30 de ce médicament coûte 1 700 pour certains et coûte jusqu'à 13 000 la même boîte de 30 pour d'autres. Donc devant cette situation, l'État ne peut pas laisser tout simplement tous ces médicaments, ils sont 13 aujourd'hui dans notre liste, tous ces médicaments, pour qu'au gré du prescripteur, les choses arrivent en pharmacie et que les dépenses soient faites. Donc on doit chercher à donner un prix référentiel sur la base duquel INAM peut rembourser ce médicament. Et c'est ce que nous appelons en général la base de remboursement.
Donc, en somme, c'est l'État qui établit la liste des médicaments
avec les coûts,
avec un travail fait en amont par les spécialistes de divers domaines du médicament de la santé.
Voilà.
Alors, il arrive également que certains bénéficiaires, notamment de l'INAM, se plaignent des prestations de votre institut, surtout au niveau du remboursement des médicaments. Alors, dites-nous, docteur Amoussou Koutété, est-ce que tous les médicaments qui sont prescrits à un assuré sont remboursés à l'INAM? Si oui, sinon, pourquoi?
Tous les médicaments prescrits à un assuré sont remboursés par l'INAM, pour peu que ces médicaments soient dans la liste des médicaments remboursables. Ils sont remboursés. Maintenant, à défaut, le prescripteur ou le pharmacien peut proposer un équivalent. Puisque les médicaments sont prescrits en non commerciaux. on peut ne pas trouver un nom commercial donné, mais avoir dans le même temps, dans la liste, ses équivalents. Pour peu que le prescripteur s'y attarde un peu ou que le pharmacien regarde de près, on peut trouver un médicament pour le patient.
Merci. Autre question, quel est le taux de couverture des médicaments figurant bien sûr sur la liste que l'INAM a su, parce que certains assurés se plaignent de payer jusqu'à 20%, voire plus, du prix des médicaments qui leur sont prescrits et qui figurent en même temps sur votre liste. Docteur Amoussoukou.
Très bien posé comme question. Je reviens à l'exemple de tout à l'heure. Vous imaginez si les prix sont entre 1700 et 13 000, et que si le prescripteur prescrit à son patient un médicament de 13 000, tant que l'État a fixé la base de remboursement, donc le prix référentiel, la base sur laquelle rembourser ce médicament, tous ces médicaments-là, à 1700, vous imaginez le reste à charge, le différentiel qui reste à la charge du patient. 1700, nous allons rembourser 80% de 1700. Il aura les 20% de 1700, plus ce qui doit l'amener jusqu'à 13 000. Alors que si on lui prescrit celui qui coûte 1700, il n'aura à rembourser effectivement que les 20%. Au fait, c'est là toute la problématique. Nous essayons de l'expliquer aux gens. C'est-à-dire que c'est au fait, dans l'utilisation de la liste, et l'adhésion des prescripteurs est fondamentale. S'ils n'adhèrent pas à la liste, s'ils ne prescrivent pas en regardant dans la liste et en regardant, par exemple, pour un groupe de médicaments identiques, lequel est plus abordable financièrement, alors ils mettent tout le système en mal. Ils mettent tout le système sanitaire de leur pays en mal. Donc, c'est ça.
Alors, cela nous amène au rôle et responsabilité des différents acteurs dans la mise en œuvre de la liste de médicaments que les assurés... pour que les assurés soient satisfaits. Alors, dites-nous concrètement, vous, docteur Amoussoukou Tété, pourquoi pas avec l'aide de notre ami Valentin, qu'est-ce que le prescripteur, le pharmacien et l'INA, et l'assuré, chacun à son niveau, quels sont nos rôles et responsabilités ou bien les comportements que nous devrions avoir?
Pour l'INAM, c'est clair. En tant qu'organisme gestionnaire de cette liste, l'INAM doit mettre à disposition de tous les acteurs, donc tous les usagers, la liste, et veiller à sa bonne utilisation.
Encore une fois, s'il vous plaît, l'INAM doit...
doit mettre à la disposition de tous les usagers, la liste.
Oui.
Et je vais vous dire ce que nous avons fait dans ce sens.
Est-ce que vous le faites?
Nous le faisons trop même.
L'INAM met à disposition
tout à l'heure, avant que je ne quitte l'émission.
Il dit l'INAM doit mettre.
Voilà.
Mais est-ce que l'INAM le fait?
C'est ce que je lui demande justement.
Et je réponds tout de suite que l'INAM le fait. Et tout à l'heure, je vais vous montrer comment vous pouvez avoir votre liste avant de quitter cette salle.
Pas tout à l'heure, dites-le en même temps.
Tout de suite.
Oui.
Nous avons un applicatif qu'on appelle Presta Plus, qu'on peut télécharger avec votre smartphone avec Play Store. Tout de suite, quand vous l'avez, tout médicament qui sera prescrit, vous pourrez le retrouver là-dedans si vraiment INAM prend ça en charge ou pas, à quel coût, telle boîte, combien de comprimés, tous les détails qu'il faut. Ainsi, vous pourrez comparer. Ça vous permet même de comparer entre des médicaments identiques portant des noms commerciaux différents, lequel est plus accessible financièrement. Tout le monde a...
Donc, l'application marche.
Elle parfaitement. Oui. Parfaitement même.
Vous confirmez?
Non, l'application marche.
Non, je confirme. J'évoquais tantôt notre atelier tenu en novembre à Palimé. C'est là que nous avons communiqué cette information.
Et vous vous rappelez que...
Moi, j'étais à chaque fois, ça marche. Mais je voudrais que l'INA même nous dise que cette application marche, et à tous les niveaux.
À tous les niveaux, ça marche.
Okay.
Marche.
Donc, c'est ce que l'INA doit faire, à savoir mettre les listes à disposition que vous le faites.
Et veiller à la bonne utilisation. C'est-à-dire... signaler les insuffisances de tout temps. Parce que l'arrêté qui créait et qui fixait les médicaments de cette liste créait au même moment un comité de suivi de la liste. Puisque c'est un arrêté interministériel qui a créé la liste, c'est-à-dire ministère de la Santé, ministère de la Protection sociale et ministère de l'Économie et des Finances. Donc l'arrêté créait un comité et chaque fois que nous avons des difficultés, il y a une certaine demande ne figurant pas dans la liste, Nous approchons le comité pour qu'il décide s'il faut l'intégrer ou pas. Mm-hmm. Nous avons intégré depuis, puisque cette liste date du début décembre 2020, on a intégré presque 200 nouveaux médicaments.
Donc la liste est dynamique, si on
peut
parler
ainsi. Elle est très dynamique. Elle est dynamique. Nous avons déjà introduit 200 médicaments.
En plus.
Merci. Dans la liste.
Voilà ce que l'INAM doit faire et voilà comment l'INAM essaie de le faire au jour le jour. Maintenant,
les prescripteurs.
Oui, les prescripteurs.
Pour les prescripteurs, sincèrement, je pense que aujourd'hui, je peux le dire, que la balle se trouve dans leur camp. Ils doivent nous aider un peu plus. Ils doivent accepter que les médicaments de même composition chimique, hein, bien que leur nom soit différent, ont toutes la même efficacité. Et que ce n'est pas parce que un médicament est moins cher que l'autre qu'il est moins efficace. Donc on ne doit pas aller comme ça. Pour pouvoir prescrire des médicaments induisant des restes à charge, donc des restes à payer pour les bénéficiaires, assez acceptable, faible.
Alors, est-ce que vous travaillez en conséquence avec vos partenaires, les prescripteurs, entre vous médecins, pour que le message passe réellement?
Nous parlons beaucoup. Nous les approchons. C'est que je vais vous dire quelque chose. Le milieu sanitaire au Togo, beaucoup n'ont pas ne sont pas imprégnés de ces notions de santé publique et continuent à travailler comme ils ont appris à la faculté. Ils viennent, moi, c'est tel médicament, j'ai appris qu'on utilise ce nom commercial, là, je l'utilise, et ne veulent pas écouter autre chose. Donc, il y a des résistances de part et d'autre. Vous savez, le marché du médicament, et je peux vous dire aujourd'hui, c'est un gros marché, non? Vous savez que c'est l'un des trois, il est dans les trois premiers marchés au monde. Il est dans les trois premiers marchés et il y a pas mal d'intérêts de toutes sortes et qui sont là et qui disent non, tel vient prescrire mon médicament que moi je représente, ceci, cela. Donc tout ça là, ça fait que nous n'arrivons pas, hein, c'est-à-dire que c'est difficilement qu'on arrive à fléchir certains pour avoir cela. Mais on va continuer nos efforts, on ne va pas s'arrêter.
Ensemble, vous invitez vos confrères médecins prescripteurs à se convertir à l'école de la santé publique.
Publique, voilà.
Avec l'assurance que les médicaments de même composition aient la même efficacité pour nous aider à guérir.
Voilà.
Merci. Nous passons maintenant aux pharmaciens.
Pour les pharmaciens, ils sont le dernier maillon sur la chaîne. C'est eux qui dispensent les médicaments. Et quand ils constatent que ce qui a été prescrit n'est pas là, ou que ce qui a été prescrit n'est pas bien par rapport au reste à charge que le patient doit payer, ils peuvent corriger. La loi, le code de la santé, leur donne le droit de faire la substitution. Je sais que dans la pratique, voilà encore un élément, c'est très difficile. Parce que quand ils le font, les médecins grognent. Les médecins crient sur eux. Mais ils ont le droit de le faire. À cause de ça, beaucoup de pharmaciens, quelque part, sont timides là-dessus. Ils ne veulent pas oser. Mais moi, je dis toujours aux pharmaciens que la meilleure façon, c'est d'appeler les confrères et de leur dire, voilà, et tel manque, mais tel est son équivalent, je veux lui donner. Ou ce que vous avez prescrit là, il y a moins 10 ans, il y a plus accessible financièrement, qui fera moins payer le patient qui se plaint parce qu'il n'a pas d'argent. Et j'aimerais que vous m'autorisiez à substituer.
Merci. Il y a un dernier acteur qui est omniprésent, qui est transversal d'amont en aval, c'est l'assuré. Alors, nous, comme assuré, qu'est-ce que nous devons faire dans
vous
ce
Vous devez connaître et user de vos droits. D'abord, la première des choses, vous avez droit à l'information. Vous avez droit à l'écoute. Ça s'appelle la réactivité en dimension qualité des soins. Vous avez droit d'être écouté. Vous avez le droit d'être informé. Vous avez le droit de parler, de dire aux médecins, aux pharmaciens, ce que vous voulez. Donc, aux soins, à la consultation, vous pouvez, poliment bien sûr, dire à votre médecin qu'il semble que dans la liste, il y a des médicaments, dans un groupe de médicaments identiques, il y a toujours un qui est quand même plus acceptable s'il pouvait vous prescrire cela, que vous aimeriez parce que vous n'avez pas assez de moyens. Vous pouvez dire à la pharmacie, devant des difficultés d'accessibilité, de disponibilité de médicaments ou de coûts, dire au pharmacien de vous substituer le médicament. C'est prévu par le Code de la santé, écrit noir sur blanc, que le pharmacien a le droit de substituer. Il va substituer en vous donnant l'identique. L'identique en DCI, c'est-à-dire l'identique en composition, en forme, comprimé ou sirop, je ne sais pas, et dosage, si c'est 50, 100 mg, ainsi de suite. C'est comme ça se fait la substitution. Ce n'est pas n'importe comment. Donc, sincèrement, et que tout le monde sache que il a sa partition à jouer. C'est toute une chaîne. Et si chaque maillon fonctionne bien, n'importe comment, le résultat ne sera que bien.
Merci à vous, docteur Amouzou Kouetete Teko. Vous êtes chef département contrôle médical et qualité des soins à l'INAM avec notre ami Valentin Bédé Bodom.
Oui. Alors, comme c'est la mode, les astuces, actuellement, ça dit que moi, souvent, quand les gens m'appellent, ils sont dans une pharmacie, ils disent, ben voilà.
Et on t'appelle beaucoup.
Beaucoup. Ben voilà, je suis là, et puis on dit que ce médicament n'est pas pris en charge. L'INAM ne prend pas ça en charge. C'est quoi cette histoire? Je dis, ah oui, vous êtes où? Je dis, ben, je suis dans telle pharmacie. Je dis, bon, ok, d'accord. Est-ce que tu peux te demander gentiment au pharmacien d'ouvrir Presta Plus et de regarder dans la liste des médicaments remboursables un équivalent à ce qu'on t'a prescrit pour qu'il puisse te le substituer? Si ce n'est pas pris en charge, certainement qu'il y a un qui est dans la liste. Ou bien, c'est que c'est cher, que ça me revient très cher, comme Dr Amoussou vient de le dire. Il dit, regardez, il y a un médicament équivalent dont le prix de remboursement est aussi accessible que ça. Deux, trois jours après, il m'appelle, ben oui, j'ai réussi. Franchement, ça m'a aidé, et même j'ai économisé 6 000, 7 000 francs sur les premiers chiffres qu'on m'avait donné, le premier montant qu'on m'avait donné, j'ai pu économiser. Aux autres, moi je dirais, comme Dr Amoussou l'a dit, c'est pour renchérir. Je suis en face de mon prescripteur. Il a fini de prescrire, ou il veut prescrire, très gentiment. Hey, « Hé, s'il vous plaît, docteur, est-ce que les médicaments que vous me prescrivez, si c'est, vous regardez, vous me prescrivez les médicaments qui sont remboursés par l'INAM, là, ça va m'aider. Hein. » C'est un gentil rappel. Et je suis sûr que ça va marcher. Et ça marche toujours. Et pour ajouter encore, nous avons le droit. Nous l'avons dit, c'est vrai que peut-être que ça n'a pas été assez. Play Store. Téléchargez l'application Presta Plus de Play Store, installez-le, allez dans l'onglet médicaments, la liste des médicaments s'ouvre, tapez le nom de votre médicament en haut de la barre, et puis dans le champ, vous avez le nom, la base de remboursement, ce que même vous devez rembourser et ce que l'INAM prend en charge. S'il ne s'y trouve pas, demandez gentiment à votre pharmacien de vous le substituer. Merci.
Merci. Nous avons des téléphones, des smartphones, des tablettes qui sont de véritables ordinateurs. Il nous revient donc de l'utiliser à bon escient, notamment. Aller sur cette application, chercher à savoir les listes homologuées et remboursées par l'INAM. Et nous aurons prévenu ou nous aurons réglé un certain nombre de problèmes. Sylvestre Kokoubeni, un petit commentaire?
Non, écoutez, lorsque vous voyez la chaîne, le premier maillon, en réalité, c'est les médecins prescripteurs. Si vous voyez un peu la chaîne. Et au bout, c'est du fait donc de leur prescription que les gens ont peut-être des soucis après pour avoir donc les médicaments. Alors, à ce niveau-là, est-ce que l'INAM, ou du moins l'État, le ministère de la Santé, hein, tous ceux qui sont donc les premiers acteurs de cette filière, que ce soit INAM et tout ça, est-ce que vous ne pouvez pas organiser une rencontre avec ces médecins-là?
Hein? La question revient, docteur.
Parce que en réalité, le nœud du problème, c'est là. C'est eux qui prescrivent d'autres choses et que, bon, les gens se retrouvent parfois dans les pharmacies en difficulté. Est-ce que vous ne pouvez pas échanger avec eux, les sensibiliser, les inviter à être, bon, si vous voulez, peut-être le thème va revenir un peu patriote. Hein? Et aider leurs frères togolais et autres. Parce que si vous voyez, s'il y a quelque chose, bon, peut-être de 1500 et 2000 qui peut valablement jouer le rôle, pourquoi aller presser quelque chose donc de 25 ou 30 000 Voyez-vous, donc c'est discuter avec eux. Je crois que si le nœud du problème est réglé, je crois qu'on n'aura plus donc des vidéos virales sur le. les réseaux sociaux.
Docteur, vous écoutez ?
Oui, c'est très bien dit. Hein. Très, très, très bien dit. En fait, c'est la solution. On s'y attelle, on fait des choses. Moi, la dernière fois, pas plus tard qu'il y a un mois de cela, j'étais à l'intérieur du pays, dans les régions septentrionales, où j'ai rencontré les prescripteurs de chaque région. Et sur cette thématique, on a discuté beaucoup. Je les ai conviés à aider le système sanitaire de leur pays en prescrivant, en consultant PrestaPlus et tout ça là. Mais peut-être que c'est à l'échelle et dans la continuité, la communication là, c'est peut-être dans la continuité que les gens oublient vite. Et on n'oublie pas non plus qu'il y a un turnover au niveau santé important. Donc on a fait les gens, il y a des nouveaux qui arrivent tout le temps, il y a quelque chose comme ça aussi. Donc il va falloir que, ce que moi je pense, et ce que nous allons faire, que dans la permanence de l'action, qu'on soit un peu avec eux, c'est-à-dire que ce ne soit pas seulement des occasions de communication, et après c'est le silence, de réduire ces périodes de silence et de parler beaucoup plus souvent et continuer.
Merci beaucoup. En tout cas, nos enseignants, hein, ces pédagogues, nous ont déjà donné la formule. La meilleure pédagogie, docteur Mouzoukoutete, c'est... la répétition. Ne jamais se lasser d'expliquer,
voilà.
N'est-ce pas?
Voilà, c'est ça.
Sylvestre Okoubeni, il y a également l'actualité politique, dont une rentrée qui s'est opérée hier, après 2 mois de vacances, un peu de villégiature. Ouais. Nos 91 parlementaires ont retrouvé le chemin de l'hémicycle.
Oui, la rentrée peut-être la dernière, je dis peut-être parce que...
Heureusement, tu as dit peut-être.
Oui, peut-être parce que jusque-là, nous n'avons pas quand même le chronogramme des élections législatives. Mais lorsqu'on voit un peu la manière dont les choses se passent, on se dit peut-être que nous risquons donc de rentrer dans le premier trimestre du mois de l'année 2024. Hein, peut-être que c'est dans ce trimestre-là qu'on aura finalement les élections.
Donc, on viendra à la fiction, mais revenons à la rentrée parlementaire.
C'est peut-être la dernière, mais on les a vus. Ils étaient tous là hier. Certains sont dans le 31, un très beau et tout, avec leur écharpe et tout. Donc, ils vont d'abord, dans très peu de temps, se plancher sur la loi des finances en 2024. Ils ont tellement donc, de boulot à faire. Donc, on espère vivement qu'ils puissent acter à ce que le pays puisse continuer donc, à marcher. Et si vous voulez, en tant que média, puisqu'ils vont bientôt donc se plancher sur la loi des finances.
Justement.
S'il peut véritablement revoir notre cagnotte à la hausse, pourquoi pas. La
cagnotte de qui?
La cagnotte de l'aide de l'État. C'est important. Il peut surtout saisir.
Alors,
vous
justement, savez, Sylvestre,
généralement, dans cette situation, on parle des autres.
Vous êtes secrétaire général reconduit
du patronat
d'une organisation PPT.
Oui.
Avec vos camarades du CONAP, de l'OTM, de l'URATEL, du Saint-Gite et autres, c'est justement l'occasion de faire du plaidoyer ou bien du lobbying auprès des députés pour faire passer vos doléances. Parce que j'ai écouté Mme Tchégan dire hier que le processus d'adoption de la loi de finances est dynamique.
Oui.
Eux, les députés, s'impliquent en amont. Eh bien, la brèche est ouverte. Nous, la presse, Sylvestre Béni, approchons les députés pour faire lobbying ou plaidoyer à un niveau ou à un autre.
Oui, écoutez, si je le dis, c'est parce que déjà, au niveau donc, de notre organisation, quand même,
PPT,
nous réfléchissons là-dessus. C'est vrai que lorsque vous voyez...
Vous revisez encore, session vient d'être ouverte.
Non, écoutez, nous réfléchissons à aller vers les autres. C'est ce que je voulais en fait dire.
Eh bien,
je vois que les autres aussi sont dans la même dynamique. Je crois que le pas sera fait très bientôt vers les députés. Et s'ils m'écoutent, ils vont bientôt.
S'ils ne t'écoutent pas au club de la presse, ils liront tes articles. Et quand tous les journaux, quand toutes les radios, quand toutes les télévisions, quand tous les médias numériques vont amplifier nos doléances,
oui,
nos députés, ils ne sont pas sourds.
En fait, nous voulons quand même leur donner cette chance-là. Ceux qui ne seront plus peut-être reconduits pour la prochaine législature peuvent au moins se targuer de dire c'était à notre moment qu'au moins la presse a pu. Voilà quoi.
Merci. Eh bien, cette session essentiellement va plancher sur le projet de loi de finances. Madame Tchégan dit que les députés s'y impliquent déjà en amont. Quand le gouvernement va faire parvenir le projet du texte, par indiscrétion, nous en saurons un peu, nous en parlerons. Mais il n'y a pas que ça. Hein, Madame Tchégan également dit qu'il y a un total de 13 projets de loi, oui, au moins, hein, ceux qui vont occuper les députés. C'est parti depuis hier jusqu'au 31 décembre. Oui. Si entre-temps, il n'y a pas de nouvelles élections et que ces députés soient changés, ce qui... enfin, on verra bien, Sylvestre Béni.
Oui, mais tout compte fait, ils seront là, puisque la loi leur donne quand même la possibilité de continuer en attendant que les autres députés puissent être élus et installés. Donc, ils ont quand même encore quelques mois en bonus devant eux.
Merci. Rappelons et terminons que c'est la sixième législature, présidée par Chantal Yawa Djibori Tchégan. Ils ont été élus en décembre 2018.
Oui.
Et en principe.
Le 20 décembre 2018.
En principe, en décembre 2023, au plus tard, une nouvelle assemblée devrait être élue.
Oui.
Mais comme la loi dispose qu'au Togo, les institutions et les personnes restent en place jusqu'à ce que leur successeur remplaçant soit connu,
oui,
trois points de suspension, on verra bien.
Voilà, c'est cela.
Merci, Sylvestre Béni. Hier également, il y a eu un jeu de chaises musicales, en tout cas, du nouveau à la tête de nos universités publiques. Et nous avons suivi les reportages sur les médias, radio et télévision hier. Et aujourd'hui, c'est le triangle des enjeux qui nous en parle. Les universités de Lomé de Kara changent de tête. Ainsi, comme l'un d'Odi Kokoroko, après 7 ans, vient d'être remplacé par le professeur Adama Maoule Kouda, qui était jusqu'à sa nomination directeur de l'École nationale d'administration ENA.
Oui.
Mais rappelez que avant qu'il vienne à l'ENA, Kouda était déjà vice-président de l'Université de Kara.
Oui.
Et l'Université de Kara, justement, où le professeur Komlan Sanda, après 7 ans également de service, va céder son bureau et son maillet au professeur Charie Kokou, qui est l'une de nos éminences grises en matière de mathématiques. Triangle des enjeux dit que Kokou Charie est professeur titulaire en mathématiques. Il préside également la Société des sciences mathématiques du Togo. Voilà deux valeureux professeurs qui prennent la succession de deux de leurs années, qui ne sont pas moins valeureux. Surtout, il y a des chantiers que Kokoroko a ouvert à Lomé ici depuis 7 ans. Comme la Sanda en a fait de même, ça veut dire que Kokou Charie et Adama Kouda vont chausser des pantoufles, n'est-ce pas?
Oui, en réalité, on a trouvé quand même de très bons profils pour remplacer également ceux de bons profils également qui quittent. Parce que lorsque vous voyez au niveau de l'université de Lomé, il faut, du moins c'est dans les deux universités, le constat c'est que c'est les deux présidents qui ont plus duré à la tête donc de la présidente de l'institution, que ce soit à Lomé ou à Kara.
En fait, j'ai pas la durée de vie de Komlan Sedo, de Gaïbo et autres, mais en fait, ils ont fait 7 ans,
Kokoroko
et Sanda.
Et lorsque vous voyez un peu les réalisations, si on prend peut-être l'université de Lomé, je crois qu'aujourd'hui, lorsque vous promenez un peu à l'université de Lomé, c'est une fierté, ça, il faut le dire.
Ah, j'y étais encore.
L'université que nous avons connue, peut-être la Brousse, aujourd'hui, ce n'est plus cette université où il y a et quand même des goudrons un peu partout, le wifi et tout ça, avec des lampadaires, des restaurants et tout. Je crois que le professeur Kokoroko a quand même fait pour cette université. Et bon, peut-être lorsque vous lisez un peu les choses sur les réseaux sociaux, les gens disent oh, il n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Je me dis que bon, nous faisons pas la même lecture des choses parce que déjà le fait même de les entrées déjà à l'université et tout, ça a beaucoup changé.
Maintenant, laissons le temps juger seulement le jeune que je sais. Je sais que l'université de Lomé, créée en 1970, a eu comme premier recteur le professeur Ampa Johnson, père son nom.
Ouais.
Après, il y a eu le Francesco Komlavi Sedo. Après, il y a eu... C'est pas dans l'ordre, hein.
Oui. Et tous ces noms-là sont restés.
Il y a eu Kaibo, il y a eu Ahadji Nounou.
Ouais.
Maintenant, il y a eu Kokoroko. Ouais. Chacun, en remontant depuis 70 jusqu'en 2023, en parcourant la présidence ou le rectorat de chacun, on pourra faire les comparaisons. Mais j'ai écouté le professeur Iou, ministère de l'enseignement supérieur, qui présidait la cérémonie, et qui a dit hier que l'université de Lomé n'a pas de budget d'investissement.
Oui.
Que l'université de Lomé n'a que des budgets de fonctionnement.
Oui.
Et Iou, en même temps, précise que 1 kilomètre de voie bitumée coûte au moins 1 milliard. Alors, se demander, les routes goudronnées sur lesquelles nous circulons à l'université de Lomé, ces amphithéâtres, ces nouvelles écoles qui se créent ici et là, comment est-ce que Cocoroco a pu mobiliser des moyens pour le faire?
Je crois que la réponse permet dans ton commentaire, parce que et c'est là où je parle donc de la dynamique un peu de monsieur. Il a su quand même s'entourer d'un certain nombre de partenaires, hein, et pour le faire. Donc vous voyez, et ceux qui, et il a même aussi précisé hier que le budget n'a pas changé. C'est-à-dire que c'est le même budget.
Et où?
Oui,
le ministre de l'enseignement supérieur.
Voilà. Donc si c'est avec le même budget qu'il a pu réaliser ça, ça veut dire qu'au moins il a su implémenter quelque chose, il a su donner une ouverture, peut-être à l'université, c'est-à-dire un nouveau format, hein, le paysage et tout ça a changé, mais avec le même budget, ça veut dire que ceux qui l'ont précédé peuvent valablement faire la même chose. Donc, disons que le monsieur a su marquer son histoire, il a su marquer son temps, son remplaçant étant encore de ses portes, si on peut le dire, parce qu'on le voit souvent ensemble. Donc, j'ose croire qu'il va continuer dans la même dynamique pour pérenniser,
Je veux rappeler, terminer, qu'avec Cocoroco, l'Université de Lomé a signé des partenariats avec des universités américaines, avec les hautes études, les hautes écoles commerciales, ACC, autres écoles de Paris. Il y a même des partenariats avec des institutions de l'ONU et espérons que Adama Koda sera bâti sur la fondation de Cocoroco. Et demain, ce sera la passation entre Komlan Sanda et Kokou Charié à Kara. Et Sanda aussi, quand il a été nommé il y a 7 ans, l'université de Kara était confinée dans l'ancienne ENI du Kara. Maintenant, il y a un chantier pour doter l'université de Kara de son nouveau cadre.
Ouais.
On verra bien.
Oui, on verra bien. Lui aussi, il en a fait. Je crois qu'il y a au moins ce format où il a donné la chance quand même à beaucoup d'étudiants d'avoir des ordinateurs. Il y a eu un projet le projet Galileo, quoi. Bon, c'est juste le nom. Mais ça a permis quand même à beaucoup donc d'étudiants qui sont donc en licence ou en master et tout ça, qui a permis à ces jeunes-là de pouvoir donc écrire leur mémoire et tout. Je crois qu'il y a beaucoup de choses aussi qui ont été faites là. Selon nos deuxièmes informations, il y a un projet. Hein, il avait quand même un projet, une école donc de journalisme et tout. Et donc, je crois qu'il a également posé donc de bons pas. Hein, il a quand même laissé des empreintes et que le nouveau M. Charié saura également continuer dans ce sens-là.
Maintenant, l'autre question à laquelle on n'a pas encore de réponse, ils deviennent quoi? Comme la Sanda, quand il va passer le maillet et son bureau à Charié demain, il devient quoi? Cocoroco, lui, est encore ministre d'enseignement primaire et secondaire.
Lui, il est ministre. Bon, l'autre, je crois que l'État ou le gouvernement saura donc...
De toute façon, ils ne chômeront pas. Avec leur grade, leur niveau, ils ne chômeront pas. De toute façon,
encore qu'ils sont des professeurs, ils pourront au moins, en attendant, de trouver mieux,
s'ils chôment,
retourner
ils
dans les amphis.
Ils invitent à devenir consultant du club de la presse.
Pourquoi pas?
Mais Modeste va commencer à préparer. Parce que
bon Cocoroco
et Komlan Sanda deviennent nos consultants.
Bon, ils seront bénévoles.
Comme cela.
Voilà.
Et bien très rapidement, économie avec ce qui s'est fait à l'hôtel de février hier, que beaucoup de journaux nous rappellent. Le Magnat Libéré qui nous parle de la première édition de la Journée nationale du partenariat public-privé avec le secteur privé, qui se révèle le moteur de transformation structurelle de l'économie togolaise. Le Messager en même le sujet à sa manchette. Journée nationale du partenariat public-privé, consolider les acquis. Et Togo Matin également en parle. Hein, journée nationale du partenariat public-privé, la transformation structurelle de l'économie nationale au cœur des échanges. C'est un cadre de dialogue par excellence entre l'État et le secteur privé. Et l'État qui manifeste sa volonté de faire du secteur privé togolais un levier de référence de création de la richesse. Le Togo qui veut faire, enfin, le gouvernement qui veut faire du Togo le pays où il est le plus facile de faire des affaires. Et également le patronat qui a attiré l'attention de l'État sur certaines choses, notamment quand on a écouté le président du patronat ainsi que les invités comme des hommes comme Jonas Daou qui ont interpellé l'État, le gouvernement a diminué encore l'impôt sur la société, ceci pour faciliter les activités des entreprises et avoir une fiscalité adaptée à cette ambition. C'est ce qui a été fait hier. Et puis, du concret, avec un sujet qui n'a pas moins d'effrayé la chronique, c'est le soja. Alors finalement, est-ce que nos amis soja-culteurs et négociants du soja ont pu écouler les cargaisons qu'ils avaient sur les bras entre-temps, Sylvestre?
Non, écoutez, c'est une question à leur poser. Je ne sais pas si entre-temps, ils ont trouvé quand même une formule pour le faire. Mais il y a quand même quelques jours, ils se sont retrouvés dans un hôtel de la place pour échanger sur la nouvelle campagne, la campagne 2023-2024 qui s'annonce. Et vous savez, on dit qu'il veut aller leur ménager sa monture. Donc, ils se sont retrouvés, ne serait-ce que pour mieux planifier les choses, pour que les soucis qu'ils ont eus donc, l'année dernière, où il y a eu tellement donc, de retard dans les agréments, et ce qui a pénalisé un bon nombre de personnes, ce qui a fait d'ailleurs que certains se retrouvent avec des tonnes donc, de soja sous les bras sans trouver donc, des personnes pour les écouler et tout. Mm-hmm. Encore qu'au niveau de PIA, où il est promis...
La PIA.
Bon, la PIA, vous l'appelez... Oui, c'est PIA, non?
Okay.
C'est PIA. Différent donc de l'autre PIA. Donc voilà.
C'est pourquoi je préfère PIA.
Ok, si vous voulez PIA. Mais bon, ça, si vous le dites au moins 45 fois, vous aurez faim. Donc, disons mieux PIA. Il faut aller vite. Donc voilà. Et là, dans la foulée, on nous dit qu'au niveau de l'usine de transformation, que tout est fin prêt pour démarrer.
Oui.
Donc tout cela, donc, nous notons. Hein, nous notons cela. Et nous verrons. Nous allons véritablement observer cette campagne-là. Hein, pour voir si véritablement tout ceci était promis, hein, si effectivement on a quand même mis tout cela donc en marche.
D'autant plus que.
Mais c'est... si on voit au moins au niveau des acteurs,
oui.
Bon, on commence à sentir un grain d'espoir.
Mm-hmm.
Donc on verra si tout cela va être matérialisé.
D'autant plus que le président de l'Association nationale des commerçants et exportateurs de soja,
oui.
Hein, qui prend l'engagement d'annoncer que demain il fera plus beau qu'hier.
Oui. Donc,
et ils ont rencontré également leurs partenaires financiers des banques
et tout ça. Bon, on ne veut pas donner des dons pour faire des publicités gratuites, mais il y a quand même beaucoup d'institutions financières qui disent également, qui ont dit oui à les accompagner. Donc tout cela, on va véritablement observer cette campagne, puisque il faut dire que la dernière campagne, il faut trouver quand même. Il ne faut pas se payer de mots pour le dire, c'était un fiasco total, surtout avec le ministère du Commerce qui a traîné. Bon, du moins, c'est les ministères en charge, ministère du Commerce et ministère de l'Agriculture, c'est eux qui doivent donner les agréments. Ils ont beaucoup traîné et tout ça, ça a pénalisé véritablement les acteurs, le secteur. On espère que cette fois-ci, ils vont faire diligence pour que tout marche comme sur des roulettes.
Notamment que la campagne soit effectivement lancée en octobre,
prévu, oui.
Octobre 2023, oui. C'est demain, hein. Nous sommes déjà au début.
Oui, puisque la dernière, c'est vers... novembre, et c'est en décembre que certains ont commencé à avoir leur agrément, et devant ça, certains ont vu leur contrat résilié et tout, donc il ne faudrait pas qu'on revoie les mêmes choses. Quoi. Voilà.
Et le président de l'Association nationale des commerçants et exportateurs de soja parle également d'innovations qu'ils vont introduire dans leur système.
Oui, justement, on verra tout ça, parce que lorsque vous voyez les acteurs aujourd'hui, tel que je viens de le dire, on sent de l'enthousiasme, on sent un grain d'espoir, regain donc d'espoir. Ben, tout cela est pourvu que du moins ceux qui sont donc à la tête des ministères.
Merci. On va terminer la première partie avec votre article qui porte sur Kodi Togo avec Chris Kofi Yaira à Gobia, qui devient le nouveau coordinateur général. C'est quoi Kodi Togo? Ils sont quoi?
C'est la coordination. Donc, c'est la coordination des Togolais de la diaspora. Donc, ils ont tellement d'associations. Donc, ils se sont retrouvés dans cette mouture commune là qu'on appelle Kodi Togo. Et donc, la présidence, ou du moins, c'est la coordination, elle se fait de manière rotative. Une présidence tournante, si vous voulez dire, comme on le fait peut-être à la CDAO, même si on ne respecte pas cela. Mais eux, ils respectent cela parce que c'est un mandat, donc, de 6 mois, renouvelable une seule fois. Donc, celui qui a assumé la coordination, qui est parti, vous le connaissez très bien, c'est Tché Alphonse Lawson-Relou. Mm-hmm. Vous devez peut-être le connaître, puisque vous avez fait peut-être ensemble à l'université.
Non, c'est un peu ma génération.
Justement, je le sais. C'est pourquoi je dis vous devez le connaître. Donc, c'est lui qui a fait 6 mois. Donc, 6 mois renouvelables une fois. Donc, il a laissé. Puisque eux, c'est la transparence. C'est la transparence.
Il a fait 6 mois renouvelables une seule fois. Il n'a pas
Il n'a pas tout parti à la Constitution. C'est-à-dire qu'il n'a même pas touché au test. Okay. Et il est parti. Donc, il a laissé de droit. Et donc, la branche ghanéenne.
Ce qui me frappe, moi, c'est que le nouveau coordinateur de la coordination de la diaspora porte un bel habit en batakali tissé à la main.
Oui.
Alors, le Togolais qui est à l'extérieur s'habille en habit togolais, alors que nous qui sommes au pays, nous aimons plutôt nous habiller justement, en venue de Chine, venue d'ici et de là.
C'est un message fort aussi à l'endroit.
Message quoi?
Fort.
Quel fort?
FRT.
Ok, merci pour Il est midi passé 2 minutes. Nous suspendons nos échanges ici. Le temps que Canal FM adresse ses messages à nos partenaires. Et puis, nous attendons les auditeurs qui vont entrer en ligne.
93.5. Canal FM.
Nous sommes de retour dans ce studio avec les consultants autour de nous. Gadia Tchonyadi de Santé Éducation. Sylvestre Kokou-Béni du journal La Manchette, puis nos deux émissaires de l'INAM, docteur Amoussou Kotité et également Valentin, qui sont là. Beaucoup de questions. Par exemple, quelqu'un dit qu'il est agent public, sa femme autant, les deux sont assujettis, les deux sont prélevés. Valentin, est-ce qu'on ne pourra pas faire l'économie d'un prélèvement dans ce couple-là?
Ok, merci. Merci pour sa question. Et nous sommes partis de la solidarité.
Mm-hmm.
Vous voyez, la solidarité, elle doit être agissante. Ce n'est pas parce que je suis agent public, mon épouse aussi agent public, que on va seulement autoriser à une seule personne de cotiser. Et la solidarité, où est-elle alors? Où est-elle cette solidarité? Je comprends que plus nous sommes nombreux à cotiser, plus nous pouvons nous aider. Absolument. Et puis, n'oubliez pas aussi que peut-être qu'avant, et c'est des études qui ont été faites avant de mettre en place un mécanisme d'assurance maladie.
Mm-hmm.
Il y a un taux de cotisation minimal qui a été défini et retenu. C'est-à-dire que les études n'ont pas été faites en disant si deux personnes sont dans le même couple, ils sont dans un couple et ils sont fonctionnaires, combien ils vont cotiser. On a demandé aux fonctionnaires, combien êtes-vous prêt à cotiser? Mm-hmm. Quel pourcentage de votre salaire?
Merci. La mienne servie, l'auditeur en ligne, bonjour.
Bonjour.
Oui.
C'est Mohamed.
Monsieur,
voilà, le chef.
Merci beaucoup. Ah, le seul, voilà, vous êtes bon. Le seul innocent après Jérôme Mahomet, attention. Oui, nous écoutons l'ami Mohamed. Ah, il faut un peu d'humour, hein, puisque la vie, elle est un peu
trop stressante.
Merci beaucoup.
Voilà, il n'y a pas là. Il ne peut pas parler. Moi,
il faut parler.
Il est tout enlevé là pour lui, je ne sais même pas comment on peut faire.
Ils ont enlevé quoi?
Parce que tout le pourri, à part la compte préalable, là, il n'y a plus de pourri, donc ça, on peut acheter.
Mais, docteur Amoussou Kotité vient de dire que depuis 2020, ils ont ajouté 2 nouveaux produits à la liste qui s'allonge.
Oh, c'est faux. C'est faux.
Merci beaucoup. Docteur Moussou Kotete, vous avez écouté l'ami en direct.
Oui, bon, je l'ai écouté, c'est son avis. Sinon, moi, j'ai les chiffres ici et tout, tout. C'est seulement quand on se retrouvera, il verra bien qu'on a ajouté des produits, je ne sais
pas. Et vous nous rappelez l'application
Presta Plus.
Comme ça, l'ami Mohamed pourra consulter lui-même
et liste. Voir les choses. Et on n'a pas enlevé de produits.
Merci. L'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Seigneur Mavo.
Seigneur Mavo.
Il salue le jeune dynamique.
Nous vous saluons. Il vous salue.
Salut, on vous salue, monsieur.
Oui, merci.
Nous vous saluons. Voilà.
Merci pour la liste là, mais moi, on ne connaît pas cette liste. Comme l'a dit l'autre journaliste là-bas, il faut en parler aux médecins. Mais déjà, nous, quand on arrive dans les hôpitaux, on nous dit directement d'aller se faire consulter. Arriver au guichet, c'est les cachets qu'ils mettent. Or, ils ont une pharmacie, je ne sais pas si la pharmacie est détail, vidéo, quoi. Ça dit qu'ils n'ont rien qui est prescrit par l'INAM qui est dans leur pharmacie là-bas. Donc, on te renvoie ailleurs. Si tu es malade faible, va te chercher ailleurs pour venir avec le médicament avant de suivre les soins. Ça fait des tracas aussi. Mm-hmm. Je ne sais pas, les hôpitaux.
Public ou privé?
Public.
Oui.
Ont abandonné. Je veux dire quoi? Je ne sais pas si c'est eux qui assurent encore sous coup la choc. Une maman est venue vers moi, elle pleurait que ce qu'on l'a donné, ça ne marche pas. Elle m'a demandé de l'accompagner. Arrivé, le médecin me dit que l'appareil ne travaille pas. On a changé d'hôpital, c'était la même chose. J'ai dû débrousser mes fonds pour les premiers soins.
Là, vous parlez de Scolassu, c'est ça?
Scolassu, oui.
La scène s'est passée où?
Je ne sais pas s'il faut donner le nom.
Non, ne serait-ce que la ville et le quartier.
Oui, c'est à Lomé et à Nikonakwe.
Lomé et Nikonakwe.
Oui.
Merci beaucoup.
Bien.
Tous ceux qui gèrent ce qu'on assure devraient également s'interroger et
s'interpeller. Il paraît que l'INAM ne paie pas, ne rembourse pas. C'est pourquoi ils ont stoppé tout selon les premières informations.
Merci. Docteur Moussou Kotete, Valentin.
C'est-à-dire, à ce jour, je ne vois pas, je ne le comprends pas. Mm-hmm. L'INAM n'a pas de lien avec Scolassu. Mm-hmm. Et les tablettes, Scolassu utilise des tablettes électroniques. Et je comprends si c'est gâté, mais normalement, le centre devait signaler.
Donc, Scolassu ne relève pas de l'INAM.
Pas du tout.
Merci beaucoup. Mm-hmm. L'auditeur suivant. Faire l'amalgame. Oui, bonjour.
Oui, bonjour, Canal
F. Oui, madame.
C'est madame Imam.
Madame?
Madame Immaculée.
Immaculée.
Oui.
Il n'y a pas de nom togolais, moi c'est Kodjo.
Merci.
Ok, prochainement. Ok, oui. Nous écoutons.
Oui, c'est à propos de l'INAM.
Mm-hmm.
C'est bien, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est qu'au préalable, eux-mêmes, ils savent que les centres de santé publics sont autonomes. Les pharmacies qui sont dans ces centres-là, c'est les centres même qui les approvisionnent.
Mm-hmm.
Maintenant, quand on fait la prestation, c'est à crédit. Il faut que l'INAM traite les pièces avant de rembourser.
Mm-hmm.
Mais c'est fait que l'INAM ne rembourse pas à temps, mm-hmm. alors que les centres roulent sur leur fonds.
C'est ça.
Les salaires même, c'est ça.
Mm-hmm.
La déclaration à INAM même, c'est ça.
Mm-hmm.
Ce qui fait que parfois, les centres n'arrivent même pas à verser les versements même des contractuels à INAM.
C'est ça.
Et ça fait que certains, même si on les fait d'INAM, là, n'arrivent même pas à jouer des statuts de INAM.
Mm-hmm.
En principe, INAM devait voir dans quelles conditions on pouvait aider un peu les centres.
Mm-hmm.
Aider les centres, les approvisionner en médicaments. Et comme ça, maintenant, quand on vient faire à crédit, même si l'INAM ne rembourse pas à ça, on sait qu'on a déjà quelque chose dans les formations sanitaires.
Mm-hmm.
Sinon, ça fait de la peine que comme le papa l'a dit tout de suite, que la personne se présente et qu'on lui dit qu'il n'y a pas le produit. On lui met le cachet d'aller payer ailleurs. Parce que quand on se dit qu'on a deux ou bien trois de ce produit-là et qu'il faut vendre à quelqu'un à crédit à l'INAM, et maintenant, on va rembourser après 2 ou 3 mois.
Mm-hmm.
Pourquoi ne pas laisser et vendre à quelqu'un cash?
Merci beaucoup, Madame Immaculée. Valentin?
Oui, bon, nous avons pris bonne note.
de la collaboration plus étroite, de la disponibilité des médicaments. Je pense que les instances vont y veiller et aussi les retards seront aussi réduits dans les règlements et déposer aussi les factures à temps, s'il vous plaît, parce que parfois on dépose la facture aujourd'hui, deux semaines après, on dit on n'a pas payé.
Allô?
Oui, l'auditeur.
Bonjour, bonjour.
Bonjour à vous.
Monsieur Kakou.
Monsieur Kakou.
Oui, Monsieur Kakou Agbaye.
Nous écoutons.
L'INAM, il faut une révision. Ou bien vous supprimez, on supprime l'INAM.
On révise quoi?
Les tests et les choses. Tout.
Tout, hein?
Oui, parce que vous allez à la pharmacie maintenant, zéro. Vous revenez. S'il vous plaît, ça ne va pas. Si même nous les retraités, les l'INAM, ça ne va pas.
Bon, est-ce que vous voulez attirer votre attention sur un point plus précis?
On prescrit un produit, oui. Vous allez là-bas, l'INAM ne prend pas. Pourquoi?
Bon, est-ce que le produit figure sur la liste dont nous parlons?
Ah. Ok, moi je ne peux pas déterminer ça encore. Soit ils n'ont qu'à faire la révision de l'INAM en général, et, ou bien ils n'ont qu'à supprimer. Ça ne nous arrange pas.
Ok.
Je crois, docteur Amoussou en a parlé largement sur la liste des médicaments. Lorsque vous arrivez dans une pharmacie, on dit l'INAM ne prend pas en charge. Quelle est votre attitude? Que devez-vous faire? Est-ce qu'il y a un médicament équivalent ou qu'on peut substituer avec? Nous l'avons dit, monsieur, si vous étiez là et si vous n'étiez pas là, c'est l'occasion. Vous êtes dans une pharmacie, on vous dit, l'INAM ne prend pas en charge. Demandez à votre pharmacien, s'il vous plaît, substituez-nous par un équivalent qui se trouve dans la base de l'INAM.
Merci. L'auditeur en ligne, bonjour. Allô?
Bonjour.
Bonjour.
Oui, Didier.
Ah, Didier.
Oui, bonjour, monsieur de l'INAM. Vous ne pensez pas aussi que c'est la charité, le groupe profit des pharmaciens qui vous pousse à interdire, bien à exclure certains produits sur les médicaments? Moi, je donne un exemple. Hein. La dernière fois, là, quelqu'un m'a commandé un médicament que je l'ai pris à 21 000. Hein, je peux citer le nom. À 21 000 ici. Et la dernière fois, il voulait qu'il y en a plus, m'a recommandé. Enfin, j'ai pris les trois, la même médicament à 37 euros, ce qui est 34 000. J'ai vu le profit que les pharmacies bouffent. Un médicament qui est à 21 000 ici, j'ai pris les trois au même prix en France. Vous avez vu?
Donc, les trois en France sont coupés en équivalence CFA.
Vous avez dit 37 euros en
CFA, ça fait combien?
Ça fait 24 000 à peu près.
24 000.
Vous n'avez pas payé un gros, c'est-à-dire, il faut voir le produit, c'est aussi qui vous pousse à réduire certains médicaments. Mm-hmm. Si les prix étaient moins chers, vous pouvez ouvrir pour que beaucoup de médicaments puissent rentrer sur votre liste. Merci beaucoup. Si je peux dire le nom de médicaments, c'est la force.
S'il vous plaît, Didier. C'est l'information qui nous importe. Merci beaucoup, Didier. Et docteur Mouzoukou Tété, en réaction à Didier?
Oh, bon, en réaction à Didier, je vais dire qu'on va évaluer cela, on va voir, on va enquêter autour. On va voir ce qui se passe. C'est vrai que les produits sont plus chers ici, certains, qu'ailleurs, que chez les Blancs. Mais ce n'est pas tous. Et je veux revenir un peu sur quelque chose où je voulais
intervenir. Attendez, je reçois le dernier auditeur, puis on ramasse tout ça ensemble. Rami en ligne, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Sass.
Oui.
C'est Natema.
Monsieur Natema.
Oui.
Eh bien, nous écoutons.
Oui, moi, je veux dire à Inam, c'est les gens qui sont là-bas, vous invitez là. Comme mon président l'a dit là, si ou bien il supprime, ou bien il n'a qu'à réformer l'INAM là. Vous savez pourquoi?
Non, dites-nous.
Monsieur Sass, quand on te fait un rappel, il rentre dans le rappel pour faire un prélèvement. Et maintenant, ça s'augmente. S'ils veulent dire que c'est l'assurance, je leur demande pardon. Parce que l'assurance, même para, quand tu es assuré, par an, si c'est 100 francs, voilà, l'assurance doit prendre même si c'est 25 francs, on sait qu'ils ont pris. Tel que les gens le disent, on vous prescrit des médicaments. Quand vous allez, on dit, INAM ne prend pas en charge. INAM ne prend pas en charge. Mais ils nous ont bloqués pendant des mois avant d'installer tout ce qu'ils ont pour nous servir. Et aujourd'hui, quand vous allez dans INAM, ça veut dire que dans les pharmacies, c'est carrément autre chose. Ce n'est pas une bonne...
Merci.
C'est compliqué la tâche.
Je vous comprends. C'est pourquoi ils sont là pour vous répondre. Docteur Amoussou Tété.
Oui, merci beaucoup. En fait, la solidarité n'est pas facile. Ça demande un certain engagement. Et n'oublions pas que c'est la première expérience dans le pays, cette histoire d'assurance maladie publique. Et nous sommes devant pas mal de pays de la sous-région en ce qui concerne l'assurance maladie publique. Je dirais au dernier intervenant que le problème de rappel, le problème de l'INAM ne prend pas en charge, ça a pas mal d'explications. On a passé tout le temps dans l'émission à expliquer pourquoi l'INAM ne prend pas en charge, parce que c'est pas prescrit dans la liste des médicaments. À part ça, même la chaîne d'approvisionnement et de dispensation des médicaments au Togo est très instable. Donc il y a des médicaments qui manquent. Même avant l'arrivée de l'INAM, on allait en pharmacie, on ne trouvait pas tel ou tel. Subitement, on a l'impression que les gens ont oublié. À part ça également, je veux dire à la dame qui est intervenue concernant le tiers payant, c'est-à-dire que les à crédit,
notamment dans les centres publics.
Dans les centres publics et tout ça, qu'on sache aujourd'hui que seuls 5% de la population bénéficie, vont en pharmacie et prennent des médicaments comme ça et que l'INAM vient rembourser après. C'est 5% seulement. Et l'INAM ne couvre pas encore toute la population. Donc, c'est 5% des patients qui viennent dans un centre qui sont ainsi supportés, où le crédit est supporté par le centre. Tout le reste paye au comptant. Donc, on ne peut pas attribuer cela, pour le moment, au fait tout simplement qu'il y a le tiers payant. Donc, il y a tous ces aspects. Je pense que c'est le dialogue social. Et on doit trouver le temps, l'espace, les moyens pour organiser un dialogue social vraiment.
Qui se doit d'être permanent.
Permanent.
Une petite pause. OK. Donc, vous avez tout dit, hein?
Oui.
C'est le dialogue permanent.
Oui.
Avec vos partenaires, les prescripteurs,
les assurés,
l'État, les pharmaciens, et puis l'opinion.
L'opinion générale.
Expliquer autant de fois qu'il le faut.
C'est ça.
Oui, Valentin?
Oui, comme l'a dit docteur, il faut franchement ce dialogue permanent pour qu'on puisse mieux cerner et s'approprier les fondamentaux de l'assurance maladie. Parce que l'assurance maladie aussi, il faut avoir une culture autour. Dès que je vais poser un acte, je vais prescrire, quelle est mon attitude parce que nous sommes en assurance maladie. Moi aussi, l'assuré, quand je suis dans une pharmacie, quand on me dit « INAM ne rembourse pas », je dois avoir une attitude. Je ne dois pas juste tourner le dos et dire « INAM, là, ça ne vaut rien ». Quelle est mon attitude? Alors, quelle est l'attitude à adopter? Nous l'avons déjà dit ici. Est-ce que ce qu'on m'a prescrit s'y trouve? Si ça ne se trouve pas, substituez-le-moi. Le prescripteur aussi, nous lui demandons très gentiment, en prescrivant, d'y penser que nous sommes en assurance maladie publique et qu'il faut le faire, et le pharmacien aussi doit faire. Et l'INAM aussi prend sa part de responsabilité pour améliorer de façon continue ses services et prestations.
Merci
à l'endroit
tout
des
Merci. Tour de table actions. De fin avec Gadi Atonyadi. Une minute.
Oui, aujourd'hui, le 6 septembre, le Santé Éducation a lancé la 5e édition du marché du bien-être de la santé. Ils n'ont pas fait le lancement dans un hôtel ou bien dans une place urbaine. On est allé faire cela au marché d'Agoyassié par un dépistage d'hypertension, de diabète, de calcul de l'IMC aux femmes, aux hommes, aux revendeurs, revendeuses du marché et aux clients. Donc, l'acte continue jusqu'alors. Et nous aimerions remercier, faire un carton vert comme ça à tous ceux qui nous ont accompagnés, la mairie d'Agoyassié 1, la préfecture d'Agoyassié, la DPS d'Agoyassié, le ministère de la Santé et puis les autres partenaires qui nous accompagnent. Le rappel, c'est que c'est du 13, à partir du 13, que le marché même sera ouvert sur le terrain de Totsi, derrière le domicile d'Adem Rocher.
Merci pour ce carton vert. C'est toujours pour notre santé. Coucou, Sylvestre Béni.
Oui, moi, je vais plutôt donner un carton rouge aux compagnies, aux transports publics, mm-hmm. parce que déjà le dimanche, nous avons appris qu'il y a une compagnie, je ne vais pas donner le nom, qui s'est impliquée dans un accident
oui.
sur la nationale numéro 1 et une fille en a même perdu la vie. Aujourd'hui, plusieurs blessés. Ce matin, nous apprenons également qu'il y a encore un autre accident au niveau donc de l'Agavou, vers Niamasila, et encore deux personnes ont perdu la vie. Selon les informations, on parle souvent d'essais de vitesse. Souvent, ces compagnies avec les autobus font souvent des dépassements incroyables. Il faudrait quand même les inviter. C'est vrai, il y a beaucoup de vacanciers qui vont retourner dans leur milieu et tout. Ce n'est pas parce que c'est le moment de faire des affaires qu'on doit quand même rouler n'importe comment sur la voie, surtout sur la nationale numéro 1. Donc il faudrait quand même qu'ils raison garde. Voilà.
Effectivement, on suppose que ces compagnies sont plus sûres.
Oui.
Alors, deux accidents mortels en quelques jours d'intervalle, on devrait s'y interroger.
Voilà, il faut raison garder.
Nos condoléances aux familles éplorées par ces deux décès et vivement que ces deux compagnies que je connais aussi améliorent leur parc. Peut-être que le général Yak et son collègue des transports doivent envoyer également les techniciens regarder un peu l'état des véhicules et également la formation des conducteurs avant que ces véhicules embarquent nos compatriotes sur leur voyage. Docteur Amoussou Kotété, 30 secondes.
Oui, moi je dirais carton vert. D'abord à Canal FM pour, je dirais, la résilience, la constance que vous avez dans ce que vous faites. Très, très bien. Cette émission m'a toujours plu et me plaît toujours. Et je dirais également, permettez-moi de donner...
Et ce n'est pas un Atalakou.
Non, ce n'est pas un Atalakou.
Donc c'est sincère.
C'est très, très
donc
sincère.
Donc je le reçois.
Et second carton, vert. Pour les oublier, je dis souvent. Et c'est la grande masse d'assurés INAM qui, eux, n'interviennent pas sur les réseaux sociaux, mais qui nous félicitent de tout temps et ce qui nous donne le courage d'avancer et de continuer l'aventure. Merci beaucoup.
C'est bien reçu. Valentin, pour clôturer?
Oui, pour clôturer, j'allais donner aussi un carton vert à tous ces assurés qui félicitent et qui sont conscients de ce que l'assurance maladie les apporte dans leur vie. Et nous invitons aussi les satisfaits à s'approcher davantage de nous et de faire leurs réclamations et insatisfaction à travers nos canaux, les canaux officiels de l'INAM. Et je dis aussi merci aux prescripteurs. Et ne disons pas qu'il n'y a rien dans la liste. Je passe sous le contrôle du docteur Amoussou. Il y a plus de 2000, combien?
Il y a 2000, on va dire le nombre exact. Ici ce matin. Okay. 2896 médicaments.
2896 médicaments sur liste de médicaments remboursables. 2800. Mais bon, c'est vrai, on en veut plus, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Merci à tout le monde.
Merci, carton vert à vous qui nous avez écoutés ici au Togo, en Afrique, dans le monde entier. Nous souhaitons bon appétit pour bien digérer et le club de la presse et ce que vous allez manger, avec l'espoir que nous retrouvions demain, jeudi, à 11h avec d'autres consultants sur d'autres sujets, si Dieu le veut, et prions que Dieu le veuille.